chronique de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Retrouvons Lydia Arambourg pour sa chronique « Les peintres du XXe siècle » consacrée aujourd'hui à Olivier Debré.
Olivier Debré, chef de file de la Nouvelle École de Paris, Olivier Debré est un représentant majeur de l'abstraction lyrique. Naître dans une famille de médecins et d'artistes prédispose à un choix dont le destin s'est chargé. Troisième enfant de Robert Debré, éminent pédiatre, le jeune Olivier est né à Paris en 1920. Il passe ses vacances en Touraine, à Nazelles, près d'Amboise, dans la propriété de son grand-père maternel, le peintre Édouard de Bas-Ponsant, qui l'accompagne sur le motif. Se doute-t-il qu'il noue des liens indéfectibles avec un paysage et la lumière de la Loire dont il sera l'interprète emblématique? Il peint, dessine, sculpte aux côtés de l'aïeul. Son père acquiert non loin de là, dans la commune de Vernoux-sur-Brenne, à Noiset, le domaine Les Madères, où bien des années plus tard, Olivier installera ses ateliers troglodytes et peindra en contact direct avec la Loire, indolente, majestueuse, constante et changeante. Des étés de bonheur et de liberté, assombri par le décès brutal de sa mère. Après des études classiques, il s'inscrit en 1937 à l'École des Beaux-Arts, non en section peinture, mais en section architecture, dans l'atelier que dirige son oncle, Jacques de Bas-Ponsant, premier Grand Prix de Rome. Il suit des études d'histoire à la Sorbonne, fréquente l'atelier de Le Corbusier, rue de Sèvres, dont il n'oubliera pas les leçons lorsqu'il réalisera les plans de l'église Notre-Dame de la Source, près de Compiègne, consacrée en 1996. La peinture le rattrape. En juin, le pavillon de l'Espagne de l'Exposition internationale à Paris expose Guernica de Picasso. C'est un choc. En 1941, il rencontrera le maître qui, ayant remarqué ses toiles présentées à la galerie Georges Aubry, rue de Seine, l'invite à son atelier rue des Grands Augustins pendant l'hiver 1942-1943. La guerre, la résistance, les premières toiles abstraites. Pour Olivier Debré, c'est la confrontation avec l'histoire tragique de l'occupation. Son père et son frère, Michel Debré, futur ministre du général de Gaulle, entrent dans la résistance. Il les rejoindra et sera blessé sur une barricade lors de la libération de Paris. Pendant cette période troublée, il ne cesse de peindre en Touraine, à Paris, sur les bords de la Garonne, à Toulouse, où il s'inscrit à la faculté de lettres, tout en suivant les beaux-arts. À Paris, ses rencontres répétées à l'atelier de Picasso ont une influence décisive et orientent ses recherches vers l'abstraction. Apparition du signe, trace et présage, le signe de ferveur noire, 1944-1945. Comment continuer à peindre après les camps de la mort et l'extermination programmée de l'homme? Olivier ne peut répondre à l'impossibilité de représenter ce qui ne peut plus l'être. Dans ses séries de dessins et de toiles en noir et blanc qui ne dissimulent pas l'héritage de Guernica de Picasso, apparaît pour la première fois l'idée du signe et du sourire. Olivier Debré cherche à exprimer son émotion sans passer par la représentation. Le signe est l'incarnation de l'émotion et de la pensée. D'abord allusif, semi-abstrait, abstrait, il est porteur de toutes les émotions. Durant l'hiver 1944-1945, il peint directement au tube, signe de ferveur noire. Cette peinture témoigne du passage de la figuration à la non-figuration. Le peintre dénonce le faux débat entretenu entre l'art abstrait et le réalisme. Pour Debré, c'est un antagonisme, puisque son travail reste du domaine des sens. Face à l'innommable, Debré recourt au geste pour transposer son émotion. Il s'en explique. « J'ai vraiment cherché comment, à l'intérieur d'un signe et sans passer par la convention, je pouvais exprimer une chose sans qu'elle passe non plus par la représentation. » Pour que le signe soit vivant, il fallait qu'il soit spontané et que ma ferveur y passe et la difficulté était que la conscience y soit en même temps, parce que la conscience tue la ferveur. Le mot est lâché, ferveur. Au thème d'abstraction lyrique, Debré lui préfère celui d'abstraction fervente. L'absence de la couleur est compensée par un questionnement sur la matière. Collage de gravier, sable, étalé par un geste spontané. Ses recherches le situent dans celles de Fontana, d'André Masson, et le matiérisme de Fautrier, Dubuffet et plus tard de Tapiès. Dans ses séries de dessins à l'encre de Chine, au fusain, à la gouache, intitulées « Le mort de Dachaud »,« Le mort et l'assassin »,« L'assassin, le mort, son âme », »,« Le mort et le sourire du nazi », la violence et l'horreur déclenchées par la révélation des camps se traduisent par l'opposition graphique de lignes brisées, de triangles aigus et de lignes courbes, de hachures brutales. La vie a repris son cours normal. Olivier Debré s'est marié, un fils est né et en 1946, il installe son atelier à Cachan. Il a recommencé à peindre. Sa rencontre avec Lanskoï réveille son goût pour la couleur, encore très timide, avec l'apparition des thèmes de la musique, comme ses signes musiciens et de la danse. Il peint le concert champêtre ou Grande Brune, achevé en 1952, qui affirme l'inscription de sa peinture dans un héritage pictural, Giorgione, Titien, Manet. Exprimer la structure du signe. Au début des années 50, apparaissent ces signes personnages, qui seront suivis par les signes paysages au début des années 60. À la fin des années 40 et jusqu'au début des années 60, Debré pratique une technique d'empattement et d'aplat coloré travaillée au couteau ou à la truelle, maçonnée, puissamment emboîtée, laissant deviner le geste de l'artiste. À l'inverse de Nicolas de Staël, qui recourt aux aplats comme moyen structurel, Debré exprime la structure du signe. La palette, encore austère, est constituée de terre, d'ocre sombre, de vert et de bleu. En 1948, Debré côtoie Soulages pour des débuts communs au Surindépendant et en 1949, il présente sa première exposition personnelle, Galerie Bing. La même année, il installe son deuxième atelier rue Saint-Simon qu'il gardera toute sa vie. Avec la verticalité du signe naissent les signes personnages. Signes reposant sur un ou deux appuis, le deuxième légèrement décalé, suggérant le déhanchement. À l'encre de Chine, le noir coule et se fragmente. Quant aux huiles monumentales, leurs formes intuitives sont des signes génériques, jamais inconscients. Il applique la peinture allant du haut en bas, puis de gauche à droite, et par sa trace primitive, le corps est ainsi conçu comme une architecture au sein d'un espace délimité par le cadre, à l'opposé de l'espace ouvert de ses futurs signes paysages. Une toile intitulée « D et S » ou « Grise lourde », des initiales de Denise, son épouse, et de sa fille Sylvie. Une autre toile, « Famille à la Grande Falaise », Saint-Georges de Didonne, d'où son épouse Denise est originaire et où la famille Debré passe l'été. Deux toiles essentielles, majeures de cette époque. Le signe renvoie toujours à l'émotion première. À la fin des années 50, Olivier Debré expose régulièrement aux côtés de ses aînés Hartung, Schneider, Poliakov, Vieira da Silva et de ses confrères Zaouki, Mathieu, Geneviève Haas, Atlan, Doucet, Lobiès, Choutetchoun, De Gotex. En 1950, il expose pour la première fois à New York et débute au Salon de Mai à Paris. En 1956 et 57, il expose Galerie Michel Varenne. Il découvre à cette époque, dans l'atelier de Louis Pons, la lithographie qu'il pratiquera régulièrement, tout comme la gravure. Olivier Debré réalisera plusieurs livres de bibliophilie, notamment avec Bernard Noël. Toutes les caractéristiques de sa peinture sont en place. Le signe comme substitut de représentation, la visibilité du geste, la matérialité de la peinture, les subtilités de la couleur monochrome. La lumière fait son apparition avec l'allègement de la matière. Elle bouscule les formes, les repousse par un geste plus rapide. Les couleurs réveillent la toile et l'espace submerge le tableau. Olivier Debré revient au paysage avec des formats horizontaux qui lui font délaisser les signes personnages pour des signes paysages alors qu'il aborde la sculpture dont la stylisation de l'élan suggère la présence humaine. Il partage ce caractère ascensionnel avec les sculpteurs Brancusi et Giacometti. Debré se refuse de décrire. Je le cite. « Je ne puis peindre que coincé par la sensation éprouvée. » Il se rend aux États-Unis en 1959 pour son exposition à Washington. Il découvre alors la peinture américaine, Klein, Steele, Rothko, qu'il rencontrera et reverra en 1963. S'il évolue vers une gestualité plus appuyée le rapprochant de la color field painting avec la technique du all over, couvert partout, il se différencie de l'abstraction américaine en conservant toujours l'usage de la peinture à l'huile sur des toiles préalablement apprêtées et en peignant dans la nature. Immersion dans l'espace coloré. On assiste à la disparition du plan matière au profit d'un espace monochrome. Debré nous dit « Il lui faut être dans au lieu d'être face à la nature, dans et non face à la peinture. » Et il devient lui-même, comme il le dit, un élément de la nature. Je le cite « Quand je suis comme le vent, comme la pluie, comme l'eau qui passe, je participe à la nature et la nature passe à travers moi. Je pourrais les faire les yeux fermés. » Il écrit cela en 1975. Pour lui, il faut transmettre une émotion et une expérience sensorielle. Olivier Debré est un des peintres les plus appréciés et sollicités à l'étranger, où il expose régulièrement à partir des années 60. Ce globe-trotteur allie une curiosité du monde à une générosité naturelle. En 1966, il fait une première exposition d'une série de 8 à Oslo. La Norvège lui inspirera de nombreuses peintures. Il effectue un premier séjour au Japon en 1970. Il rencontre alors des calligraphes japonais qui pratiquent selon lui un système de signes conventionnel dans leur quête du vide pour atteindre un geste qui se voudrait intemporel. Mais pour lui, l'Occident ne peut accepter de se dissoudre dans l'univers. Commence à partir de 1965 une longue série de voyages en Europe, l'Espagne, l'Italie, la Jordanie, la Grèce, l'Italie, mais aussi en Afrique, en Chine, plus tard, alors qu'il réalise ses premières commandes monumentales, en 1967 pour Montréal, en 1968 la faculté de médecine de Toulouse, et puis pour l'exposition internationale d'Osaka, une grande mosaïque. Les années 1970 correspondent à l'équilibre formel qu'il atteint dans sa peinture. Entre contrôle et liberté, conscience et ferveur, réflexion et spontanéité, vide et présence, pensée et passion, Debré atteint un équilibre formel dans une suite de toiles d'un format carré qu'il affectionne tout particulièrement. Debré peint au gré de ses voyages, puisant son inspiration dans le contact avec la nature. Il lui faut peindre un moment donné. Il peint dehors, en toute saison, avec le vent, la pluie, le soleil, les nuages, le froid, quelle que soit l'heure, livré aux intempéries et à ses émotions. Il aime travailler plusieurs toiles à la fois. Après avoir entrepris une peinture, il s'arrête pour s'imprégner de ce qu'il vient de faire. Cette interruption lui faisant perdre la spontanéité, il démarre aussitôt une nouvelle peinture. La permanence étant l'esprit d'un lieu et l'émotion qu'elle a déclenchée en lui. Il nous dit « Le temps émotionnel est très court, et s'il dure, il redevient conscient. Donc ce sont de multiples instantanés qui se succèdent avec des temps de repos. Je traduis l'émotion qui est en moi devant le paysage, mais pas le paysage. » Des toiles sont réalisées en une journée ou sur plusieurs mois ou années. L'exigence étant que la peinture soit reprise dans la même saison et toujours au même endroit. La couleur est donnée par le choix du lieu. Le peintre ne dit pas, par exemple, « Petra rose », mais « Rose Petra », ce rose qui caractérise le site de Petra. Et ainsi titra-t-il « Bleu foncé de Bavière, ocre rose Houston, Texas, blanche de l'Acropole ». Le lieu de l'émotion étant la couleur elle-même, nous dit-il, la qualité et l'esprit du tableau donnent une sensation qui est celle que peut évoquer un paysage réel. Quand je donne des titres, c'est la vérité. Lorsqu'il est à l'atelier, le geste d'Olivier Debré retrouve le souffle originel et s'ajuste à l'émotion, en parfait accord avec le signe qu'il incarne. Désormais, la lumière ne s'exprime plus dans la matière, mais dans la transparence. La Loire, source d'inspiration. Quand il ne voyage pas, Olivier Debré se ressource en Touraine, au Madère, en bordure de Loire. Le fleuve vit, avec son étendue, ses couleurs, ses reflets, sa lumière, l'inversement du ciel et de l'eau, ses remous, ses ondulations. Sa principale source d'inspiration est devant lui, la Loire. Rien de comparable avec les expressionnistes américains. Olivier Debré travaille au sol. Il emploie de larges brosses fixées à de longs manches pour épandre les coulées joyeuses et sensuelles. La couleur ondoie, généreuse, en dégoulinade, selon son expression, en jus, il prend l'habitude de diluer l'huile avec de l'essence de térébenthine, en inflexions ondoyantes, transparentes, adaptées au rythme du fleuve, sur des fonds d'une fluidité qui repousse hors champ des amas de matière, pigments sortis du tube qui s'amoncellent en croûte et décentrent la composition. Reprise en giclure, alors que le pinceau souligne des risées et arrête la couleur en ourlet, en effilochure, pour exprimer ce que la nature a de plus insaisissable et de plus immédiat. Les traces de la brosse apportent mouvement et variation avec des effets de transparence et des nuances subtiles de couleurs pour d'infinies vibrations. Une lumière douce et diffuse submerge la surface pour ce qu'il appelle une coulée de son art. La monumentalité. Il affectionne les formats allongés de plusieurs mètres pour une vision panoramique s'identifiant à la Loire qui coule au pied de la propriété familiale. Une monochromie spatiale qui n'est ni celle de Nolande, ni celle de Maurice. Il n'y a plus que des signes d'espace. Ses titres en témoignent. Grande blanche Touraine, ocre orange de printemps à la tache vert clair. Monochrome rouge des tilleuls inspiré d'une longue allée d'arbres au Madère. Coulée d'ocre mouvante, taches vives, losanges, courbes, Touraine. Ces espaces de paysage opèrent une fusion avec l'univers. Sa manière de peindre est très physique et entraîne le mouvement du corps tout entier, ce que Georges Mathieu vivra d'une façon plus chorégraphique. Pour marcher sur la couche picturale, il protège ses pieds en les emmaillotant dans des sacs en plastique. Olivier Debré nous dit « Lorsque je peins par terre, il existe une adhésion physique, sensuelle, presque sexuelle. » Olivier Debré entre en communion avec la nature. Il affronte l'espace dont il capte l'énergie, la transparence par les jus. Désormais, le lyrisme est du temps en mouvement. Le geste est large, mais maîtrisé, concentré ou élargi, resserré ou souple, pour répondre au rythme. Le geste est un discours, et pour moi, l'émotion est davantage un arrêt du geste, nous dit-il. Je contenais le geste pour qu'il soit analytique et non gestuel. Désormais, il n'y a plus que des signes d'espace dans ces tableaux. Dans les années 1980, Olivier a réalisé plusieurs commandes publiques, dont les rideaux de scène et de fer de la Comédie-Française en 1987, ceux de l'Opéra de Hong Kong en 1989 et celui de Shanghai en 1998, ces deux commandes qui vont lui faire découvrir la Chine et qui lui inspirent des toiles aux colorations rouge et jaune. L'espace-temps est conquis. Le temps est drainé par le geste dans la couleur, et la peinture n'est que du temps devenu espace. Le temps se trouve drainé par le geste dans la matière. C'est l'idée d'Einstein de l'espace-temps, écrit-il en 1984. L'élève architecte éprouve physiquement l'espace. Ses nombreuses réalisations dès les années 70 soulignent l'intérêt qu'il n'a cessé de porter à l'architecture. La liste est longue. Rappelons brièvement les décorations pour le lycée Rabelais à Chinon en 1975, puis le centre hospitalier universitaire de Liège avec l'architecte Charles Vandenhove, avec lequel il retravaillera à Paris en 1996 pour le Théâtre des Abbesses. En 1982, c'est une peinture monumentale pour la nouvelle chancellerie de l'ambassade de France à Washington, de l'architecte Remondet. En 1988, une toile de 50 mètres carrés est mise en place dans l'escalier de la mairie de Boulogne-Billancourt. Et la même année, un panneau est placé dans le hall de l'hôpital parisien Robert Debré. En 1992, est inauguré par Jacques Chirac à Montréal, dans le parc La Fontaine, le mémorial du général de Gaulle pour le 350e anniversaire de la cité québécoise, une sculpture haute de 17 mètres en granit bleu de Vire. À Kyoto, en 1992, c'est le mur extérieur revêtu d'une céramique à la villa Kuyojama. En 1994, ce sont quatre structures en acier peint en rouge, la plus haute de 18 mètres, pour l'entrée de l'Eurotunnel à Calais. En 1994, toujours, est inauguré l'espace Georges Bernanos, à Paris, rattaché à l'église Saint-Louis-d'Antin, avec le mobilier liturgique et la fresque du Buisson Ardent. En 1995, Olivier Debré collabore avec Caroline Carlson pour le ballet éponyme Cygne, avec des décors et des costumes du peintre, créé à l'Opéra Bastille en 1997. Parmi ses dernières œuvres, les vitraux pour la chapelle Saint-Mandé à Josselin et ceux pour l'église de Lamballe non terminés. En 1980, Olivier Debré est nommé professeur chef d'atelier de peinture murale à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, où il enseignera jusqu'en 1985. Une salle Olivier Debré est inaugurée en 1982 au musée de Tours pour présenter la donation faite par l'artiste à la suite de son exposition. Je le cite à nouveau. « Je brosse de grands tableaux en raison de l'épanouissement physique qu'ils procurent. Le grand tableau vous prend dans votre corps et vous pousse dans l'espace, tandis que le petit tableau est une abstraction de cet espace. » Olivier Debré écrit cela en 1979. Debré est parvenu à la jonction entre sa sensation et la cristallisation de son émotion. Le spectateur est invité à plonger dans l'espace pictural, à refaire l'expérience du peintre dans un univers de couleurs, à s'y perdre. Olivier Debré atteint l'ivresse chromatique. En 1997, il a découvert le Mexique. Ultime voyage avant la Chine, où il peint à Shanghai quelques mois avant de disparaître. Été 1999, c'est la rétrospective de l'œuvre d'Olivier Debré à la Galerie nationale du Jeu de Paume à Paris. En 1999, le 17 mars, Olivier Debré est élu membre de l'Institut à l'Académie des Beaux-Arts, au fauteuil précédemment occupé par Georges Chessial. Il décède le 1er juin. Un hommage lui est rendu devant son atelier au Madère. Il est enterré au cimetière de Noisay, en Touraine. Depuis 2000, une série d'expositions circule dans des musées de province et à l'étranger, dont la plus récente s'est tenue à Alger en 2010. En 2003, la galerie Carré et Compagnie à Paris présente régulièrement son œuvre et organise la première exposition depuis le décès du peintre, l'année même de la présentation de la Dation Olivier Debré au Centre Pompidou, Musée national d'art moderne de Paris. Olivier Debré aurait pu faire sienne la confidence de Léonard de Vinci, arrivant de Toscane sur les bords de la Loire avec la cour de François Ier. « Ce que tu as vu n'est plus, ce que tu vas voir n'est pas encore. »